Question politique, c'est en direct et jusqu'à 13h et ça commence maintenant. Bonjour et merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. L'invité de questions politiques, exception ou cas d'école? Son cas restera-t-il isolé? Ou faut-il y voir le premier pas d'un rapprochement entre LR et RN? L'avenir le dira, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Il a fait le choix de quitter les Républicains et la droite pour l'extrême droite. Il a rejoint Marine Le Pen. Quelle Europe défend-il? Il est du côté de Viktor Orban et de Matteo Salvini. Il soutient Vladimir Poutine, qu'il rencontrait encore il y a quelques jours. Le numéro 3 de la liste du Rassemblement National aux élections européennes, Thierry Mariani s'est installé dans le studio de Questions Politiques pour intervenir l'appli France Inter ou les réseaux sociaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger à mes côtés l'équipe de Questions Politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait Thierry Mariani. Nous irons droit dans quelques minutes maintenant. Nous sommes d'abord au lendemain de la 19e journée, 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Nos consignes de fermeté ont été respecté, déclarait le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner hier en fin de journée. L'ordre républicain a été maintenu, poursuivait-il. Est-ce que vous êtes soulagé?
J'ai envie de dire pourquoi on n'a pas eu de tels résultats plus tôt. Voilà, oui, je suis soulagé parce qu'hier, les Gilets jaunes ont pu manifester et les cagoules noires ne sont pas venues à Paris. Et je fais bien la distinction entre les deux, entre les casseurs d'extrême gauche, les Black Blocs, qui pourrissent l'image des manifestants et des braves gens qui veulent manifester leur mécontentement. Voilà, il y a eu malheureusement un policier, et une vieille dame qui ont été blessées.
Nice.
Et globalement, on peut dire que les choses se sont nettement mieux passées qu'avant.
Vous validez les mesures qui ont été prises?
Le retour à l'armée est totalement le recours à l'armée est totalement hallucinant. C'est heureusement il n'y a pas eu de problème, mais ça peut être vraiment dangereux.
Mais attendez, c'était pas un retour à l'armée, on sait très bien. On sait très bien que même si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen l'ont dit, il s'agissait de dégager les forces de l'ordre d'un certain nombre de missions et qui étaient confiées et les confier à Sentinelle pour dégager 300 policiers.
J'écoutais ce matin un responsable sur une radio sur France Info, du service Alliance, qui disait ça a libéré deux compagnies de CRS. Donc franchement, c'est pas ce qui a permis. Ce qui a permis, c'est vraiment les fouilles préventives.
Si c'est rien, c'est pas hallucinant.
Comment?
Si c'est rien, c'est pas hallucinant.
Non, c'est dangereux. Heureusement, il s'est rien passé. Mais l'armée, les gens s'engagent pour lutter contre le terrorisme, pour préserver la France, pas pour se retrouver face à des mouvements sociaux. Heureusement qu'il s'est rien passé. J'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Il s'est rien passé aussi, soyons clairs, parce que les cagoules noires, les Black Blocs, ont décidé de pas venir. Et comme vous le savez, quand vous regardez les 18 actes précédents, on a eu des jours avec Black Blocs et des jours sans Black Blocs. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus, ça s'est bien passé. Moi, je m'en félicite. Les manifestations ont été déclarées. Il faut que les gens qui manifestent déclarent leur parcours. Voilà. Et la question, je répète, qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on a dû attendre l'acte 19 pour que les choses se passent bien.
Françoise Fressoz.
On ne comprend pas très bien le point de vue de Marine Le Pen. Elle dit ensauvagement du pays. En même temps, elle refuse de voter la loi anti-casseur. Quand Didier Lallement, le nouveau préfet de police de Paris, est nommé, elle dit c'est un homme répressif jusqu'à la déraison. Alors est-ce que vous jouez sur les deux tableaux, à la fois plus d'autorité, mais aussi protéger les manifestants? On ne comprend pas vraiment votre position.
L'autorité n'est pas contradictoire avec la liberté. Pourquoi les députés du Rassemblement national n'ont pas voté cette loi? Parce qu'il y a un article 2, d'ailleurs, qui choque un certain nombre de parlementaires, y compris dans La République En Marche, qui dit qu'une autorité administrative peut interdire de manifester. Sur le recours à la force, il est nécessaire quand les casseurs se conduisent comme des voyous. Voilà, c'est tout. Et donc, je répète, ce qui est choquant, c'est par exemple ce qu'on a vu, non pas samedi dernier, mais il y a 8 jours, où on a vu que les manifestants étaient quasiment libres de casser tout ce qu'ils voulaient sur les Champs-Élysées et qu'on avait des centaines de CRS ou de policiers plus bas. Voilà, c'est ça.
Mais vous avez critiqué l'usage excessif de la force, c'est-à-dire qu'il y a aussi contradiction.
Non, il n'y a pas contradiction. Excusez-moi, je pense qu'on peut user de la force avec modération et avoir des mesures préventives. Ce qui s'est passé ce samedi, eh bien, voilà, moi j'ai dit enfin pourquoi.
Ah oui, bien.
Oui, mais ce qui s'est passé ce samedi est bien. On aurait pu, à mon avis, se passer du recours à l'armée. Mais ça prouve que quand le gouvernement veut, et c'est ça peut-être la question qu'il faut se poser, quand le gouvernement veut, on peut faire des saisies d'armes par destination préventive, on peut faire... Voilà. Et la question, c'est pourquoi cela s'est pas fait précédemment, pourquoi on a eu des bandes de centaines de black blocs qui pouvaient arriver dans ces manifestations et pourrir l'image des Gilets jaunes.
Alors, quelle est votre explication ? Nathalie C'est Pécarine. De la compétence ou c'est volontairement ?
J'ai presque envie de vous dire...
Les deux, mon général.
Oui, voilà, merci, vous m'avez anticipé, merci.
De
l'incompétence, je pense pas, parce que je pense qu'en France, quand on veut vraiment faire les choses, on sait les faire. On est quand même un État avec une
même
police et une gendarmerie qui se connaissent leur boulot. La preuve, ce samedi, je pense, soyons clairs, quoi. Je veux dire, depuis quelques semaines, Emmanuel Macron voit le mouvement des Gilets jaunes se discréditer parce que ces actes de violence à répétition repris, parce que maintenant tout le monde a son portable et filme, repris sur... tous
c'est
les
la faute au téléphone portable
non,
et
non,
aux
non,
gens
non,
qui ont
non,
le smartphone.
Non, j'ai pas dit que c'était la faute au téléphone portable. Je dis qu'on est dans une nouvelle époque où désormais tout est transparent. Et c'est très bien. Voilà. Et donc, les actes de violence discréditent les Gilets jaunes. Et en réalité, Emmanuel Macron joue aujourd'hui sur l'ordre, c'est moi. Et eux, c'est le chaos. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Le chaos, c'est lui qui l'a amené par son attitude.
C'était pas exactement la question de Nathalie Saint-Cric. Est-ce que s'il a laissé volontairement
le gouvernement de laisser les choses s'envenimer de manière à montrer aux Français ce que sont véritablement les Gilets jaunes ou du moins ce que leurs manifestations non autorisées peuvent entraîner.
Thierry Mariani.
J'en sais rien. Je sais effectivement, quand les deux, mon général, vous disiez, est-ce que c'est de l'amateurisme ? J'endosse. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme où il y en a un qui part au ski et l'autre qui se distrait au lieu de préparer les manifestations. Moi, je pense sincèrement qu'il y a quand même un calcul politique. Je pèse mes mots. C'est-à-dire, je le répète, que le désordre qu'il y a eu, on aurait pu l'éviter.
Donc, c'est beaucoup plus clair.
Oui, je pense qu'on aurait pu l'éviter si on avait voulu. Voilà. Et qu'en réalité, Emmanuel Macron et son gouvernement surfent sur cette lassitude et cette violence créée par les cagoules noires. Moi, je ne mélange pas cagoules noires et gilets jaunes. Et que
parfois, ce qui ça s'est se passé mélange dimanche... quand même. Alors, je voudrais votre analyse sur le mouvement et l'évolution du mouvement. Est-ce que vous soutenez encore aujourd'hui les manifestations ?
Je soutiens les revendications de beaucoup de Français qui trouvent que...
Les
manifestations, c'est pas un tout. Voilà, je veux dire, on était dans les Bouches-du-Rhône avant-hier. Moi, j'ai rencontré des gilets jaunes. C'était des braves gens, quoi, des retraités ou des gens qui travaillaient, qui gagnaient 1200, 1400 euros. Voilà, et je mets pas dans le même sac. Je répète, les cagoules noires et les gilets jaunes.
Oui,
voilà.
Mais ça dit, hier, ils étaient 40 000. Voilà le chiffre qu'on a en tout cas de la police. 40 000 manifestants. Gilets jaunes. J'ai presque envie de dire, en soi, c'est presque rien. Donc, on les gère comment, finalement
C'est presque rien. Alors, si
il y a 44 millions de Français, il y a 67 millions d'accord, de
d'accord.
Et, d'électeurs.
Et si j'ai les mêmes chiffres que vous, simplement 5 000 à Paris.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est vrai que les chiffres ne sont pas énormes.
Donc, ça veut dire quoi, selon vous?
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire deux choses. D'abord, que c'est quand même un mouvement. On en est au 19e samedi qui dure. On n'a jamais eu ça, même si je reconnais que 45 000, ce n'est pas 300 000. C'est-à-dire que malgré les violences, malgré les risques de dérapage, malgré les dangers que certains prennent, malgré le coût que ça représente de monter à Paris, il y a encore des gens qui sont là. Et deuxièmement, ça prouve aussi qu'à mon avis, je le répète, on pouvait, si on le voulait, maintenir l'ordre beaucoup mieux dans les samedis qui ont précédé.
Mais Françoise. La suite, on les gère comment maintenant? On fait quoi Qu'est-ce que doit annoncer Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous attendez finalement?
Mais la suite, excusez-moi, et si on veut arrêter ces mouvements, c'est M. Macron qui a la réponse. C'est ni la police, ni les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on attend? On attend l'oracle de M. Macron avec ses propositions.
Attendez, c'est pas un oracle dans la mesure où il y a eu un débat national depuis 3 mois.
Qui finit pas. Qui devait finir au 15 mai.
Est-ce que vous comprenez, vous, que les manifestations continuent alors qu'il y a un débat où tout le monde peut s'exprimer?
Je pense que d'abord, je vous rappelle que le débat devait finir au 15 mars, il est prolongé.
Non,
je rappelle,
il a toujours été prévu que la première étape du débat se terminait au 15 mars, ensuite il y aurait un débat régional et ensuite des propositions.
Ouais, attendez, on sait tous ce que veulent au bout de 2 mois la population,
on organise quelque chose pour les entendre, vous pouvez pas critiquer, et c'est là qu'il y a quand même une ambiguïté dans votre mouvement.
Non, il n'y a pas d'ambiguïté, là où il y a une ambiguïté...
Vous avez condamné le débat au fond.
Non, on n'a jamais condamné le débat, on a dit que c'était une opération de communication. Et quand je regarde le magazine Challenge de Madame la Présidente de la Haute Autorité pour le débat l'ancienne ministre, pardon, je
Joanneau.
Cherche.
Chantal
Merci,
Joanneau.
Chantal
C'était
Joanneau.
Une de votre, c'était, de cette votre interview, famille politique.
Cette interview de Madame Joanneau est extraordinaire. Elle dit dans Challenge, il faut que chacun le lise. Le gouvernement a confondu grand débat et communication politique. Et d'autre part, j'ai refusé d'endosser cette responsabilité parce qu'il voulait relire et corriger le rapport. Donc ça prouve bien quand même que depuis le début, il y a une opération de communication politique. Que les gens débattent. C'est très bien. Mais je veux dire, aujourd'hui, je le répète, vous avez tous compris quelles sont les principales revendications.
Lesquelles,
si M. Macron, lesquelles, je pourrais pas les, c'est d'abord
les
des revendications de justice. Les plus, moi, à mon avis, la principale, c'est de redonner la parole aux gens, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Et après, c'est les revendications d'équité fiscale et d'équité sociale. Voilà.
Et donc, par exemple, il faudrait revenir sur la suppression de l'ISF, selon vous, ou pas?
Bah, si on écoute les revendications, effectivement, des Gilets jaunes, ils souhaitent qu'on revienne
et
sur...
Mais vous.
Bah, chaque fois, c'est la question que vous me posez.
Responsable politique, oui. Thierry Mariani.
Voilà. Non, mais attendez. La position du RN, vous le savez, c'est de dire qu'il faut revenir sur l'impôt sur la fortune. À titre personnel, je pense que... il faudra un jour le supprimer, mais que c'est la dernière étape. C'est pas ce qu'a fait Monsieur Macron, c'est-à-dire de commencer par là et dans le même temps de
ça,
bloquer les retraites. Non, c'est pas compliqué.
Donc,
à retraite.
Faut le rétablir.
C'est-à-dire
que
vous êtes pour sa suppression, mais il fallait pas le supprimer.
Non, Monsieur Ali Badou, il faut faire les choses en même temps. Voilà, je peux. Ah, oui, voyez, je deviens macronien. Non, mais ce que je veux dire
paradoxal.
Par là, qu'est-ce que les Français ont pas compris, c'est que les cadeaux étaient simplement faits dans le même sens. C'est-à-dire flat tax, ISF, etc. Et que par contre, les autres avaient gel des retraites, CSG en plus.
Non, il y a eu aussi des baisses de cotisations pour les salariés.
Pas en même temps,
voilà. Mais ils ont existé quand même.
Mais oui, mais l'image, vous savez très bien tout ce que l'image qu'on donne dans un septennat, les deux ou trois premières mesures
quinquennat,
sont emblématiques.
Quinquennat,
merci.
Certains réclament le septennat d'ailleurs, le retour au septennat.
Non, je pense pas que c'est pas. Il y a d'autres choses à faire.
Ah bah écoutez, c'est pourtant sur le site du Vrai Débat. Lisez le magazine Marianne cette semaine.
Mais je crois
ça figure en bonne place.
Je crois qu'il y a des milliers de propositions, donc je suis persuadé qu'on doit trouver tout ce que vous voulez.
Mais juste quand même,
donc lesquelles satisfaire, justement.
Voilà. Juste pour finir sur l'ISF, quand même,
Karine,
je comprends bien.
Oui.
Donc, vous conseillez éventuellement dans vos propositions de dire à Emmanuel Macron il faut réinstaller l'ISF, mais avant 2022, vous pourrez le supprimer. C'est ça votre idée?
Je dis simplement qu'il faut redonner de la justice fiscale et qu'aujourd'hui, les Français ont l'impression que les cadeaux ont été faits toujours aux mêmes. Voilà. Et c'est ça, à la limite, la suppression de l'ISF aurait pu passer s'il y avait des mesures d'allègement pour les classes moyennes et aussi
c'est
pour
quoi,
les retraités.
C'est quoi ces mesures d'allègement?
Est-ce qu'il faut faire de la TVA ou est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu?
Je pense qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu qui est aujourd'hui payé essentiellement par les classes moyennes. C'est un Français sur deux. Moins d'un foyer sur deux qui paye l'ISF.
Et vous supprimez des dépenses publiques en parallèle?
On peut supprimer un certain nombre de dépenses publiques, bien sûr.
Lesquelles?
Qu'est-ce qu'on peut supprimer?
On va pas faire toute la liste, mais...
Est-ce qu'on
laisser circuler la parole, Nathalie Saint-Cricq.
Quand on entend les Gilets jaunes, est-ce que vous considérez qu'il faut faire un geste pour faire payer les riches, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une mesure symbolique qui doit impérativement être choisie de manière à la donner aux Gilets jaunes et à apaiser leur colère?
Vous savez,
si elle est contre-performante économiquement.
Non. Je pense que j'ai été député des Français de l'étranger et ça m'a permis de voir justement ce qui se passait dans d'autres pays. Je pense que la question, c'est pas de payer les riches, c'est d'assurer une justice sociale. On a besoin de riches. Voilà. Mais je vous prends un exemple très concret. On aurait, par exemple, supprimé l'ISF. Mais en même temps, en compensation... Oui, je vous dis, on aurait... et en même temps, vous voyez, je répète, et en même temps, on aurait compensé, entre guillemets, ou on aurait demandé à ceux qui bénéficiaient de cette suppression de l'ISF un investissement automatique, je sais pas, dans le caritatif, dans l'entreprise, dans... Voilà. On n'a rien demandé en contrepartie. C'est pour ça que ça ressemble à des cadeaux. Voilà, on peut faire les choses en équilibrant. Or, depuis le début de ce quinquennat, les signes qui ont été donnés, c'est toujours dans la même direction.
Le candidat Rassemblement National aux élections européennes, Thierry Mariani, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Votre portrait, Thierry Mariani, signé Karine Bécard.
Thierry Mariani, tout le monde a fait mine de s'étonner de vous voir arriver au Rassemblement National. C'était en janvier dernier. Alors qu'en réalité, à bien vous observer, cela fait des années que vous flirtez avec les idées, avec les thèses, avec les thèmes de la famille Le Pen. Au départ, Thierry Mariani, vous adhérez très vite à un parti politique, vous avez 19 ans, vous êtes au RPR, mais vous ne devez rien à personne dont vous estimez que vous vous êtes fait tout seul. D'ailleurs, c'est vous qui avez décidé de miser sur le Vaucluse. Pourquoi? Parce que vous y êtes né dans une famille d'Italiens immigrés. Et c'est vrai que pour vous, tout marche. Vous devenez maire de Valréas à 31 ans seulement. À 35, vous débarquez à l'Assemblée et vous apparaissez à l'époque comme un rempart, puisqu'à 4 reprises, vous allez empêcher Jacques Bompard, le maire d'Orange, affrontiste, de passer député. votre style dans le Sud séduit Thierry Mariani. Vous affichez un culot incroyable, vous apparaissez même parfois totalement incontrôlable, comme ce 18 septembre 2002, à votre retour d'une expédition non validée en Irak, à Bagdad.
C'était une mission de 3 parlementaires. Nous n'avons jamais dit que nous représentons l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais dit que nous représentons le gouvernement. Mais pardonnez-moi, est-ce que 3 parlementaires ont encore le droit d'exister dans ce pays? Est-ce que les députés ont encore un rôle à avoir dans ce pays? Est-ce qu'on peut encore avoir une opinion et sortir des frontières sans le feu vert de Monsieur X ou de Monsieur Y, qui que ce soit?
Donc vous êtes un dur à cuire, fasciné par les hommes à poigne, Vladimir Poutine, Bachar el-Assad et Viktor Orban. Quant à vos idées, Thierry Mariani, elles n'ont jamais cessé de se corser, de se droitiser en 2007. Vous êtes derrière Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle, mais il se serait, en tout cas pour vous, bien trop vite ramolli. Vous rassemblez donc 40 parlementaires pour créer, dès 2010, ce que vous avez appelé la droite populaire, qui, si je puis dire, aura su faire preuve de beaucoup d'imagination sur les questions de sécurité et d'immigration. En fait, vous avez presque la même ligne que le FN, mais vous tapez sur Marine Le Pen.
Je crois que les électeurs de Marine Le Pen, qui par moments votent pour elle, savent très bien qu'elle propose des slogans, qu'elle soulève des problèmes, mais qu'en aucun cas elle ne propose des solutions.
Alors quand vous dites cela, Thierry Mariani, le 4 octobre 2011, vous êtes le ministre des Transports de François Fillon. Et pendant 5 ans encore, le député des Français de l'étranger que vous avez été a continué à pilonner la patronne du Front National. Et puis la Macronie est arrivée. Comme tant d'autres, vous vous êtes fait balayer, mais vous avez tout à coup décidé, vous, de pactiser avec votre ennemi juré. Aujourd'hui, à 60 ans, Thierry Mariani, pour continuer à exister, vous avez donc accepté de passer de l'autre côté. Et je me demande juste s'il vous arrive déjà parfois de le regretter.
Réponse Thierry Mariani.
Je vais vous faire une confidence, oui, je le regrette. Je le regrette, j'aurais dû y aller plus tôt. J'aurais dû y aller plus tôt parce
Quand
j'en sais rien, mais finalement, on est dans... D'abord, merci pour ce portrait, parce que je le prends plutôt pour un compliment. Je pense qu'en politique, au moins, vous avez souligné une chose, c'est que j'ai une cohérence des idées. Mmh. Voilà. Et j'ai pas fait comme certains qui se retrouvent aujourd'hui ministres après avoir, 15 jours avant, expliqué le contraire. Je dis simplement que, pourquoi je regrette? Parce que je pense que, sur un certain nombre de sujets, le discours des Républicains et le discours du Rassemblement National est le même. J'ai presque envie de dire que les Républicains copient maintenant le discours du Rassemblement National.
Lesquels, précisément?
Sur tous les sujets régaliens. Immigration, identité, sécurité, voilà, c'est quasiment les mêmes, même, j'allais dire, Europe.
Aujourd'hui, Laurent Wauquiez égale Marine Le Pen.
Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que le discours est quasiment le même. Et en réalité...
Que je les distingue?
Expliquez-moi, par exemple, dans le discours... Quelle est la différence sur l'immigration?
Non, mais c'est à vous qu'on pose la question. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui?
Je vais vous répondre, puisque je vous ai dit dans le discours. La différence, c'est que chez les Républicains, il y a le discours, mais il n'y a pas les actes. Alors que jusqu'à présent, quand on analyse les votes du Rassemblement National à Bruxelles, ben c'est en cohérence avec les actes.
Ouais, enfin, Marine Le Pen n'a jamais...
Pas tout en même temps.
Marine Le Pen n'a jamais gouverné. Donc du coup, les actes, pour l'instant, on ne voit pas.
C'est intéressant de voir quand même les votes de ce qui se fait à Bruxelles. On ne peut pas à la fois condamner, par exemple, la relocalisation des réfugiés politiques quand on est en France et le voter à Bruxelles. Voilà, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui... Je peux finir de répondre.
Excusez-moi,
je ne peux pas répondre.
Il faudra s'en souvenir, parce que Frontex, l'augmentation des moyens de Frontex, le Front National vote contre, alors que justement c'est censé aider dans la lutte contre l'immigration clandestine.
Mais parce que Frontex, ce n'est pas la solution universelle.
Non, d'accord, mais dire que la cohérence, vous l'avez entre le vote à Paris et le vote là-bas, le PNR, vous ne votez pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui n'étaient pas cohérentes.
Bon, je finis de répondre sur un sujet.
Thierry Mariani, d'abord.
Je finis de répondre sur un sujet. Pourquoi j'ai quitté le Rassemblement National?
Non.
Pas le Rassemblement National. Pourquoi j'ai quitté, on se perd dans les abréviations. Pourquoi j'ai quitté les Républicains?
D'ailleurs, vous avez pris votre carte au Rassemblement National?
Non, je n'ai pas pris ma carte au Rassemblement National.
Donc vous n'avez pas été jusqu'au bout, pourquoi?
Parce que ça fait 2 mois que je suis dans cette formation, que d'abord
et
avant
que vous
de
n'avez
prendre
pas eu le
carte.
Temps. Bah non, mais si vous adhérez à leurs idées, si vous auriez dû
vous
les rejoindre plus tôt,
pourquoi
je vous rassure, je la prendrai peut-être, même probablement un jour. Mais
probablement un jour.
Bah oui. Bah à l'heure actuelle,
on comprend pas.
On comprend rien, Thierry Mariani.
On comprend pas où vous êtes.
Bah écoutez, votre camarade a mieux compris. Au moins, je suis cohérent. Deuxièmement, je suis sur la liste du Rassemblement National.
Numéro 3, donc très bonne place.
Très bien. Pour le moment, ce qu'a souhaité Marine Le Pen, c'est d'avoir des candidats d'ouverture sur cette liste. Et donc on est 2 ou 3 candidats d'ouverture.
Candidat d'ouverture, ça veut dire que vous êtes à gauche du Rassemblement National?
Non, ça veut dire que je ne suis pas.
Vous êtes un modéré par rapport à l'extrême droite?
Non plus. Ça veut dire que, et alors, si je peux vous couper deux secondes, j'estime que j'ai pas rejoint un parti d'extrême droite. Voilà. Vous avez le droit de dire.
C'est vous
que...
qui parliez d'extrême droite. Laurent Wauquiez aussi utilise le mot et tous vos anciens amis des Républicains.
C'est moi qui en parlais en 2011, si je me souviens dans l'extrait
oui,
que vous avez passé.
Oui, donc on a le droit de vous citer.
Oui,
quand même.
Mais on est en 2019.
Alors
voilà,
vous avez rejoint quoi?
Le Front National d'aujourd'hui, c'est pas le Front National. C'est pas le Rassemblement National. Enfin voilà, ça a changé.
Vous employez l'expression encore en 2015 quand vous disiez que vous ne franchiriez jamais la ligne rouge. C'est dans un article de Libération.
Parce que aujourd'hui les choses ont changé. Je répète, par exemple sur l'Europe, la position aujourd'hui de notre liste est très claire. On veut rester dans l'Europe, on veut réorienter l'euro. C'était pas forcément la position il y a quelques années.
Donc pour
voilà,
qualifier...
ça vous a pas échappé que sur l'orientation.
Pour le qualifier politiquement, c'est quoi? C'est un parti populiste, c'est un parti souverainiste, c'est quoi le Rassemblement National du coup, s'il fallait quand même
c'est un parti
de...
pour moi national, populiste pour moi c'est pas alors à la limite je préfère
national populiste.
Alors je préfère populiste, même si dans votre bouche je sais que c'est un peu péjoratif. C'est pas un parti d'extrême droite, c'est quoi l'extrême droite? Je veux dire que c'est quoi un parti extrémiste?
C'est quelqu'un... Ah mais c'est à vous qu'on pose la question.
Eh ben, écoutez, je vous y réponds.
Pour moi, un parti c'est vous qui parliez d'extrême droite.
Pour un parti extrémiste, c'est un parti qui respecte pas les règles de la démocratie. Je suis désolé quand les Rassemblements National,
les
Front National présentent des candidats et perdent. Voilà, et le Rassemblement National respecte les lois de la République.
Vous étiez voilà. chez les Républicains il y a encore combien de temps, Thierry Mariani?
Il y a encore un an.
Il y a encore un an, encore un peu plus récemment même.
Comment il y a...
Vous
oui,
étiez...
j'ai pas renouvelé ma cotisation.
Oui, voilà, en janvier.
Oui, j'ai payé ma cotisation en 2018.
Voilà, en décembre, chez les Républicains, oui, parce on parlait encore du Rassemblement National comme d'un parti d'extrême droite.
Ben, pas moi, je n'employais pas cette expression. Et deuxièmement, si vous vous souvenez, madame a souligné ma cohérence.
Karine Bécart.
Voilà, merci. Karine Bécart a souligné ma cohérence. Je faisais partie au sein des Républicains, de ceux qui disaient qu'un jour, il faudrait un rapprochement. Parce qu'aujourd'hui, les Républicains, et je m'adresse à leurs adhérents, se font, à mon avis, tromper. On a un programme qu'on ne pourra pas appliquer parce qu'on n'a pas les alliés pour, je dis, on voyait encore, que les Républicains pourront pas appliquer parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Avec qui les Républicains veulent gouverner demain? Avec les déçus du macronisme? Ça veut dire qu'on n'appliquera pas le programme. Avec les centristes? Ça veut dire que là aussi, le programme ne pourra pas être appliqué. Les seuls qui ont un programme à peu près cohérent avec ce que demandent sur les sujets régaliens les Républicains, c'est le Rassemblement National. Il est temps de rassembler tous ceux qui ont les mêmes idées importantes sur la France.
Françoise Fressoz.
Je voudrais vous interroger sur deux choses. Nicolas Dupont-Aignan disait... Rallier le RN, c'est la mort sociale. Vous le vivez comme ça, vous, ou pas?
Alors, très sincèrement, non. Voilà, je m'attendais au pire. Je veux dire...
Ah oui?
Bah oui, parce que je connais cette expression de Nicolas.
C'est drôle.
Comment?
Bah, c'est étrange, c'est étrange. Pardonnez-moi. Bah
parce que, je veux dire, quand vous êtes au Rassemblement National, pour un certain nombre de gens, je vais reprendre votre expression, c'est un parti extrémiste, dangereux,
etc. Non, pour reprendre votre expression...
Quoi?
Vous parliez d'un parti d'extrême droite il y a encore quelques mois,
oui.
Thierry Mariani.
Non, je dis il y a quelques années, et d'autre part, j'ai dit qu'il fallait un rapprochement depuis des années. Voilà.
Alors,
sur les sujets. Alors, pour répondre sur la mort sociale. Oui, parce qu'il y a une sorte de diabolisation de ce parti qui date de l'époque Mitterrand, Chirac, Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui ne reflète pas la réalité. Voilà, c'est tout. Et quand je vois les militants du Rassemblement National dans les meetings, ils me rappellent les militants du RPR d'il y a quelques années. Et j'allais dire avec beaucoup plus même de courage, parce que en réalité, ils gagnent pas une élection depuis 20 ans. Ils ont quand même un certain nombre de convictions accrochées. Et je trouve que pour rester dans un parti où vous êtes en permanence diabolisé, voilà. Et j'ai pas eu la mort sociale pour répondre à votre question à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à en prendre plein la gueule, si vous voulez tout savoir. Ben, j'ai eu deux ou trois personnes, dont une seule qui m'a dit, je veux plus te voir chez moi.
Qui?
Mais, bon, ça c'est privé, excusez-moi. Mais je vais vous faire une confidence. Il m'avait plus invité depuis 18 mois. Donc, visiblement, je vais survivre. Mais voilà, en dehors de ça, j'ai eu beaucoup plus de gens qui me disent « t'as peut-être bien fait ». Je me permets quand même de rappeler qu'un Français sur trois qui a voté Marine Le Pen au présidentiel. Un Français sur trois.
Qui a voté.
Voilà.
Et François vous avez été longtemps étiqueté ministre sarkozyste. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a fait la leçon quand vous êtes parti?
Non.
Thierry Mariani.
Je remercie Nicolas Sarkozy de m'avoir nommé ministre. Mais je ne l'oublierai pas.
Donc,
il y a des reconnaissances dans la
lui.
Vie. Mais je suis un fidèle, mais pas un intime. Voilà, c'est l'expression. J'ai jamais été, je veux dire, un intime comme, je ne vais pas citer d'autres personnes qui sont bien plus proches que lui. Donc voilà, j'ai mon parcours. Je l'ai soutenu à une époque. Aujourd'hui, il est retiré de la vie politique. Voilà, et je fais mes propres choix.
Et donc, encore quelques petites questions sur ça. Vous avez sympathisé avec des gens à l'intérieur du RN? C'était facile de de sympathiser, et si c'est le cas, avec lesquels, par exemple? Et puis, une autre petite question, est-ce que vous avez
Nathalie Sacré, quand même, va poser qu'une question de temps en temps.
Est-ce que vous avez déjà voté Front National? Est-ce que vous avez déjà voté pour Marine Le Pen, puisque vous disiez à l'instant que vous auriez pu arriver plus vite, finalement, au Front National, que vous regrettiez?
Alors, est-ce que j'ai sympathisé avec des gens du Rassemblement National? Vous savez, dans la politique, c'est comme dans le journalisme, on se connaît. En plus, il y a des gens qui ont fait le même parcours que moi. Je vais vous prendre l'exemple de, je sais pas, Sébastien Chenu, Franck Alizio, Jérôme Rivière, qui étaient soit responsables, soit élus républicains, et qui ont suivi le même parcours que moi, et qui m'ont d'ailleurs, je vous le dis franchement, rassuré, parce que quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, tu verras, ça se passera beaucoup mieux que prévu, tu seras même, au contraire, bien accueilli. Et c'est vrai que la phrase que j'entends le plus souvent à la fin des meetings, c'est « merci de nous avoir rejoints ». Parce que les gens sont... Les gens sont un peu...
Ça vous fait pleurer?
Non, ça me fait pas pleurer. J'ai la crève, excusez-moi, ça me fait pas pleurer. Okay. Non, merci de nous avoir rejoints, parce que les gens sont, j'allais dire, sensibles au fait de pas être isolés. Voilà, et donc après, vous sympathisez avec des gens. Vous savez, c'est les campagnes électorales, vous en avez fait en tant que journaliste, c'est un peu un groupe qui se déplace. Donc j'ai sympathisé avec toute une série de gens que je ne connaissais pas.
Bon, est-ce que vous avez déjà voté pour Marine Le Pen, pour répondre rapidement à Karine Bécard?
Pour répondre rapidement et clairement à la question, j'ai pas voté Macron et je me suis abstenu au second tour parce que j'étais en désaccord sur les questions européennes.
Donc vous n'avez jamais voté Marine Le Pen?
Je n'avais pas voté Marine Le Pen parce que
jamais
sur les questions
RN.
Européennes... Je n'ai pas souvenir d'avoir voté RN, non.
Ni FN?
Non, bien sûr que non.
Nathalie Sacré.
Est-ce que vous considérez que vous êtes un éclaireur en clair, c'est-à-dire que vous anticipez un mouvement qui pourra arriver ensuite avec une transfusion de LR vis-à-vis du Front National? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que ça sera sous Laurent Wauquiez que cette espèce de regroupement pourra se faire? Ou est-ce qu'il faudra attendre Marion Maréchal un jour, un autre leader?
J'ai cru en Laurent Wauquiez parce que son discours est séduisant. Le problème, vous savez, c'est comme au patinage artistique, vous avez les figures libres, alors il faut être énergique, il faut faire ça, et puis les figures imposées, mais jamais d'alliance avec l'extrême droite, je reprends votre vocabulaire, ou les populistes.
C'est votre vocabulaire. Voilà.
Et donc, en réalité, non, je crois que malheureusement, Laurent Wauquiez reste dans le même cadre convenable.
Et vous croyez qu'il le pense, qu'il veut pas d'alliance, ou c'est juste un positionnement tactique?
J'en sais rien, mais en tout cas, maintenant, c'est le patron des Républicains. Il peut faire, j'allais dire, et défendre la ligne qu'il veut. Mmh. Or, je répète, on gâche nos militants, parce que ça veut dire qu'on a... Avec qui les Républicains peuvent gagner demain? Avec qui? Quand je pose cette question, et c'est la question que j'ai posée pendant un an en restant la dernière année aux Républicains, c'est avec qui on gagne? Quels sont nos alliés? Moi, j'ai vécu, en tant que député puis en tant que ministre, le quinquennat à Sarkozy. Dans plein de sujets, je vais pas, si vous en souvenez, le discours de Grenoble, par exemple, etc. Ouais. On était bloqués parce que certains centristes avaient des états d'âme. Voilà. Ben, aujourd'hui, sur de nombreux sujets, Républicains et Rassemblement National disent la même chose. Pourquoi on se rapproche pas? Alors, on dit à un moment,
Mais alors pourquoi êtes-vous si rare à avoir fait le pas que vous avez fait, Thierry Mariani? Pourquoi est-ce que vous êtes si peu nombreux?
Parce que d'abord, soyons clairs, on est un peu immédiatement diabolisés. Il y a un certain nombre de vos confrères...
Mais là, vous venez de rassurer tous ceux qui aimeraient faire le pas comme vous, pour le coup.
Je pense que c'est une démarche qui peut forcer aussi les Républicains, surtout si les militants le font. Moi, je m'adresse aux militants. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va appliquer ce qui est dit aujourd'hui par les Républicains? La réponse, c'est non. Voilà. Donc, il faut forcer ce mouvement à revoir ses alliances et à revoir sa tactique.
Françoise Fressot.
Le débat de l'entre-deux-tours a quand même montré une Marine Le Pen assez faible face à Emmanuel Macron. Donc vous pensez que un jour elle peut être élue présidente de la République et vous pensez que vous avez fait le bon choix
en
la soutenant?
Écoutez, je pense sincèrement qu'elle peut être présidente de la République. C'est vrai que ce débat, ce n'est pas son meilleur souvenir. Bon, après, excusez-moi, on a en face... je vais vous dire, Macron est certainement meilleur que Marine Le Pen sur tous les indices, sur tous les chiffres, etc. Mais Marine Le Pen sent beaucoup plus les Français. Et il y a un moment, pour gouverner un pays, il faut sentir les Français. Si Emmanuel Macron avait senti ce qu'est le peuple français, comment réagissent les Français, on n'aurait pas eu les
Gilets jaunes. Il aurait été élu président de la République?
Non, il aurait peut-être été élu président de la République, mais surtout, on n'aurait pas eu 18
semaines.
Non, mais je veux
dire, en Thierry Mariani, mais pour le coup, sentir les Français, qu'est-ce que ça veut dire? En l'occurrence, ils ont voté pour lui et pas pour Marine Le Pen.
Oui, d'accord, mais ça veut dire, excusez-moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait un très bon débat, mais je pense, excusez-moi, qu'il comprend pas vraiment ce qu'est la France et les Français. S'il avait compris, je vais vous prendre un exemple très concret. Je pense que jamais le mouvement des Gilets jaunes aurait duré 18 semaines si ça avait été François Hollande ou Nicolas Sarkozy. J'ai combattu l'un, j'ai soutenu l'autre. Mais les deux avaient quand même voyez quand il y avait un sentiment, une volonté populaire, etc. On a eu quelqu'un au début des Gilets jaunes qui a expliqué qu'il était Jupiter et qu'il n'avait pas à répondre. Ben voilà la réaction.
Mais vous nous dites aussi. Que savoir gérer les dossiers, Becker. Connaître, être compétent, finalement, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, je n'ai pas dit que ça ne servait pas à grand-chose.
Attendez,
ça
Marine Le Pen, elle est quand même encore surprenante. C'était il y a une dizaine de jours quand elle est reçue sur l'émission politique de France 2. Elle se trompe quand même clairement, par exemple, juste sur le SMIC français.
Non, elle a donné le coût horaire. Elle a donné le coût horaire.
Ben oui, mais on parlait du SMIC à ce moment-là. Ouais. Et donc, elle n'a pas le bon chiffre. Ça ne vous gêne pas en tant qu'ancien ministre de la République ?
Elle ne s'est pas trompée, elle a donné le coût horaire. Après, c'est vrai qu'on aurait pu donner le SMIC brut, le SMIC net. Voilà, il y a trois chiffres.
Non, mais est-ce que vous étiez à l'aise au moment où elle se trompe comme ça ? Enfin, vous êtes un ancien ministre de la République.
Je connais les trois chiffres. Voilà, si vous voulez que je vous les rappelle, voilà, le coût horaire, effectivement, c'est aux alentours de 36.
C'est ça ma question.
Je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen connaît beaucoup mieux ses dossiers. Et je répète que il y a une
part de sensibilité. Elle est faible économiquement, vous ne trouvez pas ?
Comment ?
Sur les dossiers économiques, il y a une faiblesse, non ? Est-ce que vous lui reconnaissez une faiblesse ?
Non, je ne reconnais pas qu'il y a une faiblesse. Je pense qu'il y a des points qui sont à préciser dans le programme du RN, mais on n'est pas en présidentiel encore aujourd'hui. Les présidentielles, c'était il y a 2 ans. Aux prochaines présidentielles, on verra quel programme sera présenté. Regardez déjà l'évolution sur les questions européennes.
Donc elle peut évoluer, donc elle peut encore aller plus loin. Elle peut s'améliorer.
Mais j'en suis persuadé.
Voilà qui est dit. François-Xavier Bellamy, au fond, est-ce qu'il incarne une tête de liste comme celle qui pourrait mener celle du Rassemblement National ? Vous reconnaissez en lui ?
Le personnage est séduisant. Le problème, c'est que la liste est absolument identique. Moi, vous citiez tout à l'heure à ce qui s'est passé.
Identique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en réalité, on trouve un peu de tout. On peut trouver un peu de tout. On trouve des souverainistes, des gens qui sont plus proches d'idées fédérales. Voilà. Si vous prenez si vous prenez par exemple les trois premières personnes, qui sont trois personnes de qualité, j'attaque pas du tout les personnes. Voilà. La deuxième personne, Agnès Evren, est quelqu'un de qualité, mais qui est plus proche de Valérie Pécresse, qui était porte-parole de NKM. Le troisième, qui est quelqu'un de qualité, et quelqu'un qui est plutôt, j'allais dire, sur des idées moins souverainistes, qui était proche d'Alain Juppé. Voilà. Et donc, en réalité, le problème des Républicains, c'est un peu le même problème dans ces européennes. C'est un peu le même problème qu'au niveau national. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de gens qui sont là ensemble pour une élection, mais qui pensent pas forcément la même chose.
Mais vous dites qu'il faut unir les droites. Là, pour le coup, on unit certains.
Je pense que certains sont pas forcément à droite dans cette liste.
Françoise Fressoz.
Je voudrais vous faire réagir au Brexit, ou en tout cas à l'interminable processus qui se déroule en ce moment en Grande-Bretagne. Comment expliquez-vous les difficultés de ce pays alors qu'ils avaient voté massivement pour une sortie de l'Union européenne ?
Thierry Mariani.
D'abord, première remarque, c'est pas la catastrophe en Grande-Bretagne. Je me permets de rappeler que le taux de chômage a jamais été aussi bas, 3,9%.
Ils sont pas encore sortis de l'Union européenne.
Non, enfin, on nous annonçait dès qu'ils allaient voter le Brexit.
Non, d'accord, mais il n'est pas encore entré en application.
Oui, d'accord, il n'est pas rentré en application, mais ça fait 2 ans qu'on nous dit que ça va être la catastrophe. Et pour le moment, l'économie n'a jamais été aussi, 3,9% de taux de chômage.
Ma question, c'est pourquoi une décision simple votée par des électeurs se traduit 3 ans plus tard par une sorte d'enlisement dans lequel
on ne sait pas comment le... Pour deux raisons. D'abord, parce que je vous rappelle que dans les traités européens, il n'y a aucune clause de sortie. Vous le savez, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'Europe
et les traités
européens...
Oui, mais il y a eu des négociations, il y a eu un protocole d'accord.
Oui, mais dans les négociations, vous voyez aussi très bien que certains ont un intérêt à ce que ça se passe mal. Et je vise très clairement un certain nombre de personnes à la Commission européenne. La Commission européenne. Parce que
donc
si ça
Juncker
se passe bien...
Et Barnier,
oui, bien sûr.
Non, et Michel Barnier le
moins,
négociateur.
Mais je pense que Juncker a aucun intérêt à ce que ça se passe bien. Parce que si ça se passe trop bien, eh bien, ça veut dire que d'autres États peuvent être tentés. Et on voit très bien qu'au sein de la Commission, il y en a qui pensent très clairement qu'il faut, j'allais dire, tordre les Anglais et leur faire payer cher pour dissuader certains.
C'est pas tellement là, ça qu'on voit, parce qu'il y a eu un accord, la Grande-Bretagne a proposé de payer la facture, il y a eu un accord, et c'est au Parlement britannique qu'on voit une impossibilité de trouver une majorité pour savoir s'il faut une sortie dure, une sortie souple, ou pas de sortie du tout. Donc comment expliquez-vous ce tiraillement du peuple britannique ?
D'abord que Theresa May aujourd'hui a une majorité très faible. Vous savez, j'ai presque envie de vous dire que la seule sortie possible, c'est comme avec ce qui se passe en France, c'est qu'à un moment, il faut retourner aux urnes. Voilà.
Oui.
C'est aux Britanniques.
Il faut un deuxième référendum ?
Je pense qu'il faut retourner aux urnes au niveau des législatives.
Non, mais il ne faut pas un deuxième référendum en Grande-Bretagne ?
Bah non, ça veut dire quoi ? Les Britanniques ont voté.
Il y a un million de personnes qui ont défilé.
Justement, il y a 1 million de personnes qui ont défilé. Il y a une pétition qui a été signée par 4,5 millions de personnes. Voilà. Vous êtes pour le RIC. Vous êtes pour le RIC.
Oui.
Vous êtes pour le référendum d'initiative citoyenne.
Oui.
Ben dans ce cas-là, pourquoi ne pas vouloir le RIC en Grande-Bretagne ?
Parce que d'abord, ça n'existe pas dans leur loi et que deuxièmement.
Ça n'existe pas non plus en France.
Non, mais justement, c'est pas ça.
Non, mais soyez pas de mauvaise foi, Thierry Mariani. Il y a vraiment un problème de cohérence.
Je suis absolument cohérent.
Il se passerait exactement la même chose que ce qui s'est passé hier dans les rues de Londres en France. Vous diriez, il faut un référendum, il faut retourner aux urnes.
Il faudrait retourner aux urnes.
Revote.
Il faut retourner aux urnes, mais vous l'avez dit, Françoise Fressoz l'a dit, le blocage aujourd'hui, il est au Parlement britannique.
Voilà, je pense. Oui, qui est quand même le représentant du peuple.
Ben oui, mais je pense que c'est au Parlement britannique aujourd'hui de retourner. devant les urnes, et puis les Britanniques choisiront. Évident que si jamais l'un des blocs dit très clairement, moi je veux un second référendum, eh ben dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mais au moins, ce sera tranché très clairement.
Est-ce que vous déplorez la situation actuelle ? C'est-à-dire, en tant qu'homme politique français, est-ce que vous trouvez ça catastrophique ? Est-ce que vous souhaitez que les choses s'arrangent, voire que la Grande-Bretagne reste...
En Union européenne ? Non, je pense, j'ai toujours considéré que avoir fait rentrer la Grande-Bretagne dans l'Union européenne était une erreur. Je pense que le général de Gaulle a une victoire posthume, malheureusement. En plus, comme vous le savez très bien, la Grande-Bretagne n'est pas dans la plupart des programmes. Elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans Schengen. Voilà. Donc,
mais
si
elle est dans la défense.
Comment ?
Elle est importante pour la défense.
Oui, c'est-à-dire que c'est le seul pays qui est important pour la défense. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais on peut tout à fait coopérer avec eux dans la défense hors d'Europe. Je vous rappelle que Airbus ou d'autres programmes se sont faits hors de l'Union européenne. Donc, Est-ce que je suis contente de ces problèmes ? Bien sûr que non.
Voilà, je ne vous ai pas demandé si vous étiez contente de ces problèmes.
C'était quoi la question ? J'ai oublié, excusez-moi.
Vous avez demandé comment est-ce que vous souhaitiez
que...
Si vous souhaitez que les choses s'arrangent...
Bien sûr que je souhaite que les choses s'arrangent. Bien sûr que je souhaite que l'accord qui a été négocié soit signé. Je constate qu'on va donner un délai de 2 mois supplémentaires. Je pense que dans ces 2 mois supplémentaires, la raison l'emportera. Mais bien sûr que je souhaite un accord.
Karine Becker.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, tout a été fait finalement pour que ça se passe mal, ces négociations ont été difficiles et vous accusiez notamment Jean-Claude Juncker. Il faut savoir quand même que la sortie du Royaume-Uni, mais la sortie de tout pays, coûte cher également pour les autres pays. Bien sûr. Par exemple, on sait que le Royaume-Uni sort sans deal, ça va coûter quelque chose comme 0,6 points de PIB à la France, qui représente en fait des dizaines de milliards d'euros. Vous n'avez pas envie de défendre les intérêts français quand même ? Il aurait fallu laisser encore plus facilement partir les Anglais, alors que ça va nous coûter très cher.
Si un peuple a envie de sortir de l'Europe, il est libre.
Oui, on a le droit de défendre ses intérêts aussi.
Quoi ? Oui, bien sûr, mais attendez, je pense qu'on défend nos intérêts, mais ça veut dire quoi ? On ne va pas retenir les Britanniques qui ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors au niveau européen. Voilà.
Non, mais dans le deal, chacun a défendu ses intérêts. Et donc, la France et l'Europe a défendu ses intérêts. Donc, est-ce qu'on a été particulièrement dur avec le Royaume-Uni ? Chacun a défendu ses intérêts.
Je pense que l'Union européenne n'a pas fait de cadeau à la Grande-Bretagne. Je pense qu'il y a des points qui sont extrêmement difficiles, comme la frontière en Irlande, notamment. Et après, je répète que si jamais les choses se passaient trop bien, ça aurait pu donner des idées à certains. Voilà. Là, tout le monde a compris très clairement le message. Quitter l'Europe, c'est l'enfer.
Donc la faute à l'Union européenne et pas à Theresa May, par exemple ?
Non, la faute aujourd'hui, si ce texte n'est pas voté, aux parlementaires britanniques qui, à mon avis, ont une majorité qui négocie un accord et ne la ratifie pas au Parlement européen, britannique. Pardon.
Thierry Mariani, est-ce que vous êtes inquiet du risque d'ingérence russe dans les élections européennes de mai prochain ? C'est une inquiétude qui est assez répandue dans les instances de l'Union européenne. En France également, il y a eu de nombreux reportages. Je vous vois sourire, mais qu'est-ce qui vous fait sourire dans la question ?
Parce que pour moi, c'est... Si je disais ça, j'aurais l'impression d'être traité de complotiste. Voilà, c'est tout. D'abord, premièrement, pour moi, la Russie n'est pas notre ennemi. Je vous rappelle que notre ennemi, c'est ni la Russie, ni les États-Unis. Notre ennemi, c'est le terrorisme et en ce moment, la montée de l'islamisme.
Voilà. Mais c'est pas la question. La question, en l'occurrence, c'est de savoir si vous êtes inquiet que la Russie influe sur les élections européennes.
Franchement, la Russie a autre chose à faire. Je pense pas. Bien sûr que non.
Alors quand la Commission européenne décide de faire une stratégie anti... des informations de Moscou, quand elle cite des choses très précises, vous dites non, ça n'existe pas.
Je dis qu'on tombe dans le jeu américain de continuer une sorte de guerre froide. Aujourd'hui, les Russes sont plutôt ont les mêmes problèmes que nous. Et l'intérêt de l'Europe, c'est de se rapprocher de la Russie. Enfin, je rappelle quand même qu'on a aujourd'hui un certain nombre de sanctions qui nous frappent mutuellement, puisqu'on a voté des sanctions contre la Russie, et la Russie nous a renvoyé la monnaie de la pièce. Et que ces sanctions, quand vous les regardez en détail, c'est extraordinaire. Les produits de nos agriculteurs sont des produits dangereux, puisqu'ils ne peuvent plus être exportés.
Alors, pour que tout le monde comprenne, Thierry Mariani, que tout le monde comprenne, en l'occurrence, ces sanctions, elles ont été notamment votées suite à l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 5 ans.
Vous voulez dire au rattachement, puisqu'il y a eu un référendum.
Exactement, qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale.
Mais qui a été reconnu par la population.
Ni l'ONU, ni l'Union européenne ne reconnaissent ce que vous appelez un rattachement. On appelle ça une annexion et pour le coup, c'est le mot qui convient.
Écoutez, moi j'appelle ça un rattachement. Je constate que l'Union européenne...
On parle en fonction du droit international, je suis désolé.
L'Union européenne s'inquiète des minorités en Crimée, ce qui est bien la preuve que s'il y a des minorités, il y a une majorité. Voilà. Mais bon, c'est pas... Revenons aux sanctions. Je dis simplement qu'aujourd'hui...
Non, mais en l'occurrence, c'est juste pour que tout le monde comprenne. La Russie a été sanctionnée suite à l'annexion de la Crimée, il y a 5 ans.
C'est votre version, moi j'ai la mienne. Voilà, chacun a la sienne.
Non, il n'y a pas des versions qui s'affrontent. Il y a le droit international, Thierry
Mariani. Écoutez, si vous voulez, il y a le droit international, mais il y a la volonté des peuples.
Oui.
Voilà. Et par moment, la volonté des peuples, excusez-moi, c'est pas forcément ce qui est décidé à l'ONU. Voilà. Et je dis simplement, si vous permettez...
C'est un peu compliqué, mais bon.
Ben non, c'est pas compliqué. Il y a eu un référendum.
Oui, qui n'a pas été reconnu et qui a été organisé dans des conditions extrêmement controversées.
Bah écoutez, alors venez avec moi la prochaine fois si vous voulez en Crimée, vous verrez comme les gens sont traumatisés. Hein.
Bah, si vous allez évidemment dans un village Potemkin où on organise des festivités et où tout le monde se réjouit de la venue de Vladimir Poutine, c'est sûr qu'on ne verra pas beaucoup d'opposants. D'ailleurs, ils n'ont pas droit de citer. La Russie est donc sanctionnée.
Vous êtes allé combien de fois en Russie, monsieur Ali Badou?
La Russie est donc sanctionnée.
Vous êtes allé combien de fois en Russie?
Non, Thierry Mariani,
non, mais attendez,
je vous pose
moi aussi des questions.
Bah non, en l'occurrence, c'est pas le jeu. Écoutez, l'émission s'appelle Questions politiques.
Vous donnez votre opinion
aux politiques. Je ne donne pas mon opinion, je cite le droit international.
Ce que certains disent, voilà.
Ça s'appelle le droit international, Thierry Mariani.
Oui, écoutez, moi je fais tout à l'heure madame passer un extrait. Oui, à une époque, moi par exemple, j'allais en Irak, ben oui, je vais en Crimée pour voir de mes yeux. Voilà. Vous avez votre opinion et je la respecte.
Ça n'est pas une opinion.
Oui, ben vous avez votre opinion et vous avez l'opinion.
Ça n'est pas une opinion.
Vous avez bon, écoutez, moi j'aurais mon expérience est d'aller sur le terrain.
Très bien.
Voilà. Et voilà. Est-ce que vous pouvez
jamais
aller.
Je voulais expliquer expliquer les raisons pour lesquelles il y avait donc des sanctions contre la Russie.
Ce que je voudrais moi comprendre, c'est pourquoi vous défendez avec autant de cœur
parce que c'est l'intérêt de la France.
Mais pourquoi alors, expliquez-nous pourquoi finalement, défendre ce qu'a fait la Russie en Crimée, en Ukraine, c'est bon pour la France et c'est bon pour l'Europe. C'est ça que je voudrais essayer de comprendre.
Je dis que l'intérêt, chaque État a ses intérêts. Les Américains sont nos alliés, mais sont aussi nos pires concurrents économiques. Et j'en veux pas aux Américains d'être forts, j'en veux à l'Europe d'être faible. J'en veux à l'Europe à chaque fois de suivre les États-Unis, sanctions après sanctions. J'en veux à la France de pas réagir quand, par exemple, on se fait piller nos entreprises, comme ça s'est passé avec Alstom Electric.
Je vois pas en quoi, à ce moment-là, il faut se rapprocher de la Russie.
Ben si, parce que sur
on
certains sujets, ce que je veux dire,
l'Europe
c'est que...
L'Europe peut pas être grande toute seule.
L'intérêt de l'Europe, c'est d'être entre les deux et pas uniquement tourner vers un bloc. Et sur les relations internationales, on a des intérêts communs avec la Russie. Et aujourd'hui, on est dans une spirale d'opposition avec ce bloc qui nous dessert. Voilà. Si vous me donnez une minute quand même,
Bien sûr.
30 secondes, ça vous choque pas, vous, si on prend par exemple la classification des sanctions qui est faite par les États-Unis et que l'Europe suit? Je cite, nos produits agricoles sont interdits d'exporter en Russie et c'est une sanction contre la Russie. Mais par contre, les Américains qui ont besoin du spatial jusqu'à présent qui ont besoin des Russes pour le spatial, pardon, n'ont jamais sanctionné le spatial. Ce qui fait que nous, on s'interdit d'exporter nos pommes, par exemple, et les États-Unis se permettent de travailler avec les Américains pour le spatial, avec les Russes pour le spatial. Arrêtons, par moment, de suivre bêtement,
on peut ajouter
meilleurs
à la liste
alliés.
Des démocraties qui ont sanctionné la Russie, le Canada.
Oui, on peut rajouter la Nouvelle-Zélande, etc.
La question que vous posez, c'était que au nom de la réelle politique, vous considériez que nos intérêts, c'est peut-être de se rapprocher. Mais pourquoi en arriver à légitimer un régime, une façon de fonctionner? On peut considérer que Vladimir Poutine on peut se rapprocher de lui parfois, mais pas dire que c'est une vraie démocratie.
Qu'est-ce que c'est une vraie démocratie?
Vous voyez un peu ce qu'on veut dire.
Qu'est-ce que c'est une vraie démocratie?
C'est un endroit où il y a des gens qui changent pour les élections, où on peut voter, où les partis, les opposants
ne
sont pas mis en prison.
Mais c'est étonnant quand même que ce soit un ancien député qui a été un élu de la nation, qui se présente à des élections au suffrage universel, qui se demande ce qu'est la démocratie.
Je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'une vraie démocratie?
Oui, c'est très étonnant
que
vous posiez la question.
Parce que je sais ce que c'est qu'une démocratie. Pour moi, excusez-moi, en Russie, il y a des élections et les gens votent. Et même si ça vous choque, ils ont choisi volontairement Vladimir Poutine. Et même si ça vous choque, il a quand même une cote de popularité aujourd'hui en baisse à cause de la réforme des retraites, mais qui est nettement supérieure à notre président. Voilà. Pourquoi vous accusez systématiquement les pays qui ne partagent pas nos idées d'être de fausses démocraties? Pour moi, la Russie est une démocratie d'un autre style que la France.
On est face à un président malgré tout qui est extrêmement...
Comment ?
C'est quoi comme démocratie ?
C'est une démocratie plutôt autoritaire, c'est dans la tradition de la Russie, etc. Bien sûr qu'elle est plus autoritaire que ce qu'on trouve en France, voilà. Bon, ceci dit, quand je vois qu'on met maintenant l'armée dans les rues face aux manifestants, je me pose des questions.
Sérieusement ?
Sérieusement ? Oui, bien sûr.
Vous venez donc vraiment de comparer la France avec la Russie ?
Je n'y ai pas de comparer, je dis que simplement une vraie démocratie, je sais ce que c'est une démocratie, je ne sais pas ce que c'est une vraie et une fausse. Voilà.
Démocratie autoritaire, ce que vous venez d'utiliser, c'est un régime qui n'existe pas nulle part.
Aussi, les démocraties autoritaires, ça existe, voilà.
Ah bon, où ça ?
Par exemple, je mets Viktor Orban dans une démocratie autoritaire. Mais une démocratie, c'est quoi? C'est là où les gens choisissent leurs dirigeants.
Oui, voilà. Mais avec des cartes un peu biaisées, vous le reconnaissez
quand
même.
Non, je suis désolé, en Russie, leur choix
est fait. Si on est sur un régime autoritaire, forcément, la démocratie, elle ne se porte pas très bien.
Vous avez décidé, je vais un peu vous chercher, moi aussi, vous avez décidé sur ce plateau que les Russes ne voulaient pas de Poutine. C'est votre choix, ils veulent de qui alors?
On n'a pas décidé.
Non, mais alors, dans ce cas-là, c'est une démocratie.
On parlait de vous en disant on peut choisir des alliés, mais pas être obligé de dire que le régime est formidable.
formidable. C'était juste qu'on
vous jamais dit que le régime est formidable. Je dis que l'intérêt de la France, c'est de se rapprocher et des Russes et de garder nos relations avec les Américains. L'intérêt de la France, c'est d'avoir une politique qui défend les intérêts nationaux.
Mais voilà. Justement, non, c'était juste pour essayer de comprendre, puisque vous parliez de cohérence et depuis le début de l'émission de la cohérence de votre engagement politique et de votre ligne politique. C'est vrai que vous avez été membre d'un parti qui fait partie du PPE, le Parti Populaire Européen, où il y a Viktor Orban, aujourd'hui suspendu, mais où il y a aussi Jean-Claude Juncker. Or, vous tapez sur l'un sans taper sur l'autre, on essaie juste de comprendre quelle est la cohérence de votre ligne.
Ça vous a pas échappé que j'ai quitté ce parti, justement pour ces raisons d'incohérence. Je vous remercie de le signaler.
Mais oui, mais pourquoi Viktor Orban?
Et ça vous a pas échappé aussi que depuis le début, moi j'ai toujours dit que je préférais la politique de Viktor Orban à certaines mesures proposées par d'autres membres de ce parti.
Mais comment vous comprenez que ce Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pardonnez-moi, reste au PPE? Pourquoi il fait pas le même choix que vous de clarté finalement?
Écoutez, il faut lui poser la question. Moi, ce que je comprends pas par contre, si vous voulez, c'est pourquoi par exemple un parti comme celui où j'étais avant condamne Viktor Orban. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on regrette de Viktor Orban?
Les Républicains?
Il lutte vraiment contre l'immigration. C'est ce que les Républicains proposent. Il relance la natalité. C'est ce que les Républicains proposent. Voilà. En réalité, il y a une incohérence une fois de plus.
Il lutte aussi contre la liberté des professeurs d'université. Il lutte aussi contre la liberté de la presse. Ce sont pas des petites choses. En l'occurrence, c'est des atteintes à l'état de droit.
C'est votre démocratie autoritaire.
S'il a été suspendu par le PPE, c'est pas uniquement par plaisir.
Ouais. Et je peux vous savez comme moi, depuis quand il est au pouvoir, je peux permettre de rappeler qu'il a été réélu pour la troisième fois.
Oui, mais dans des conditions qu'il a créées, en influant sur la Cour constitutionnelle, sur la presse et sur ce qu'on appelle l'état de droit.
Je sais pas ce que
pour poursuivre, est-ce que votre projet politique en Europe, c'est justement d'imposer ou de favoriser le développement de ces démocraties dites autoritaires?
Je sais pas ce que c'est à ce niveau-là. Mon projet pour l'Europe, c'est de redonner la parole au peuple. Quand vous avez en Hongrie un certain nombre de juges qui étaient, si ma mémoire est bonne, à vie et qui étaient là quasiment depuis une époque...
La Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle qui était là depuis des années et qui, ouvertement, vous avez une population qui est absolument à l'opposé de ce que ces juges imposent. Il y a un moment, et là c'est une question de fond, est-ce que c'est le peuple qui a raison ou est-ce que c'est le droit qui a raison?
Bon, en l'occurrence, il était question de l'indépendance de la justice, mais on va pas faire un débat sur la politique par européenne.
Exemple,
vous soutenez Viktor
Orban. Permets quand même, attendez.
Vous soutenez aussi Matteo Salvini. En l'occurrence, non, mais c'est juste pour comprendre toujours la cohérence.
Ben, c'est cohérent.
Non, ils ne siègent pas dans le même groupe. Viktor Orban ne veut pas siéger avec vous éventuellement et le Rassemblement National dans le groupe Europe des Nations et des Libertés. Il veut rester au PPE, lui. Il ne veut pas en être exclu et il n'est pas question qu'il vous rejoigne. Et juste pour comprendre la cohérence, est-ce que vous êtes du côté de Salvini ou d'Orban, puisqu'à un moment, il faut choisir. Salvini, il aimerait que tous les pays d'Europe partagent le fardeau, pour prendre une expression que vous aimerez, des réfugiés, et donc que chacun accueille sa part. Pour Viktor Orban, il n'en est pas question. Salvini, plutôt Orban?
Je suis du côté de ceux qui luttent efficacement contre l'immigration. Viktor Orban et Salvini luttent
efficacement.
Il faut
choisir, Thierry Mariani.
Mais attendez, je me fous de savoir s'ils sont dans le même parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils défendent. Voilà.
Oui.
Qu'ils défendent?
Vous défendez ligne Salvini ou vous défendez la ligne Orban sur l'accueil des réfugiés en Europe?
Elle est la même.
Tout.
Tous les deux sont pour faire
respecter. Elle est totalement contradictoire. Ils ne s'entendent pas là-dessus.
Pas du tout. Elle est la même. C'est-à-dire
Thierry Mariani, pas de mauvaise foi.
Mais non, vous me permettez laisser le temps de vous répondre?
Bah, si c'est pas de mauvaise foi, évidemment. Même deux.
Elle est la même, c'est-à-dire que tous les deux disent très clairement qu'ils veulent que les frontières de l'Europe soient respectées. Et après, là où est la différence entre Salvini et Orban, c'est quoi? C'est que Salvini a la Méditerranée, c'est la géographie. Et qu'une fois que ces réfugiés sont rentrés, il dit qu'effectivement, chacun doit prendre sa part. Voilà. Mais sur le fond, à savoir que les frontières de l'Europe doivent se faire respecter, ils disent la même chose.
Et chacun doit prendre sa part. Est-ce que ça vous semble un principe? Puisque malgré tout, c'est les Européennes qu'on va voir dans quelques semaines. Est-ce que cette ligne-là, qui est renforcer les frontières, mais chacun doit se prendre sa part, est-ce que vous la trouvez bonne, cette ligne-là?
Il faut reprendre le contrôle.
Au lieu d'être comme Viktor Orban, qui de toute façon ne veut rien voir et veut virer tout le monde.
Non, Viktor. Attendez, il faut reprendre le contrôle des frontières européennes. Il faut pouvoir rétablir quand c'est nécessaire, notamment pour lutter contre les menaces terroristes, les frontières nationales. Mmh. Et après, c'est évident que la géographie a fait dans le passé que certains pays se sont retrouvés en première ligne.
Et la Hongrie a perdu son accès à la mer après la Première Guerre mondiale. Voilà. Vous devez le regretter pour le coup.
Non, parce
mais ils doivent être malheureux. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas récupérer aussi des territoires qui leur permettraient d'avoir accès à l'Adriatique?
Vous demanderez ça à leurs voisins, c'est pas le sujet. Je pense pas que les Hongrois demandent de la rectification des accords passés. Voilà, non, je pense
donc
que...
chacun doit prendre sa part.
Chacun doit prendre sa part de la situation actuelle et chacun doit comprendre qu'on doit bloquer avec rigueur les frontières à partir de maintenant.
François Spressoz.
Alors, vous dites l'Europe des peuples, on peut comprendre.
Il reste très peu de temps.
Il y a une autre chose qu'on comprend pas très bien, c'est que vous décrivez un monde où vous avez l'influence américaine, on aurait pu ajouter la Chine, la Russie. Pourquoi est-ce que vous n'admettez pas que, au fond, l'échelle, la bonne échelle de souveraineté, c'est l'Europe sur certains dossiers clés, notamment qui sont la défense et peut-être la monnaie et peut-être aussi l'économie?
Sur la défense. Thierry Mariani. Sur la défense, vous connaissez, savez très bien que dans les 28 pays européens, il y a des politiques étrangères complètement différentes. La défense, c'est un instrument au service d'une politique étrangère. Et vous voyez bien qu'à chaque fois...
Mais en quoi la France seule pèserait plus qu'une Europe qui se doterait de ces instruments-là?
Parce qu'excusez-moi, je pense d'abord que grâce à l'héritage de nos précédents gouvernements, gauche et droite confondus, on est les seuls à avoir désormais la puissance nucléaire. Voilà. Ça a été un sacrifice des Français fait pendant des années. Et je pense qu'on doit en contrôler la maîtrise. Deuxièmement, je pense que, par exemple, certains États sont omnibulés par leur histoire, et je les comprends. Quand on est balte ou quand on est polonais et qu'on a eu les chars soviétiques sur son territoire il y a 25 ans, forcément, c'est une menace qui est encore dans la tête. Quand on est italien ou espagnol, on les a jamais eus, ou français, c'est pas la même chose. Voilà. On aura une défense commune le jour où on aura une politique étrangère commune. Je constate qu'en Afrique, par exemple, la France est quasiment les seuls, quel que soit le gouvernement, à assurer le fardeau. Voilà. Et donc, d'abord, essayons d'avoir une politique étrangère commune, mais je suis très pessimiste parce que certains États ont des traditions complètement différentes.
Karine Bécart, Nathalie Saint-Cricq.
La situation en Syrie, vous l'évaluez comment? On a entendu, on nous a dit que c'était les dernières semaines, les derniers jours de l'État islamique. Ça a l'air manifestement fait. Comment est-ce que vous voyez les choses dans les semaines qui viennent?
C'est les derniers jours de l'État islamique. D'abord, bravo à nos militaires qui ont participé aux côtés des alliés. Bravo aux Kurdes, voilà, qui vont se retrouver une fois de plus, qui ont été en première ligne, qui ont eu les pertes les plus dures et qu'on va abandonner très probablement dans quelques semaines parce que les Américains veulent les abandonner aux Turcs.
Mais comment on continue à lutter contre cette organisation qui redevient invisible finalement, qui redevient un fantôme,
En aidant, alors là, je vais amener de l'eau à votre moulin, en aidant un État à se reconstituer. Je constate que chaque fois, c'est pas la dictature qui a créé le terrorisme, c'est la faiblesse des États qui a encouragé le terrorisme. Le terrorisme s'est développé en Irak, s'est développé en Syrie quand on a affaibli les États. Voilà, je pense qu'il est temps de rétablir.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rétablir en Syrie?
Excusez-moi, il y a un gouvernement aujourd'hui qui est en place, qui est tout
donc
sauf
il faut
une
soutenir
démocratie.
Bachar el-Assad, c'est ça,
qui est tout sauf une démocratie, mais il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, voilà, c'est tout. Et je rappelle accessoirement que la guerre n'est pas finie en Syrie. Elle est finie du côté des FDS. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a une petite poche qui s'appelle Idlib, où il y a 30 000 combattants, avec, on estime, encore à peu près 100 Français, et que là, la situation n'est toujours pas réglée. Voilà, et donc aujourd'hui, il est temps, à mon avis, de changer notre politique vis-à-vis de la Syrie. Voilà, peut-être pas dans un premier temps de réouvrir des relations
diplomatiques. Et qui soutenir d'ailleurs? Est-ce qu'il faut soutenir Bachar el-Assad ou est-ce qu'il faut soutenir les Kurdes qui sont au nord-est du pays et qui contrôlent le nord-est du pays, puisque vous venez de féliciter les forces démocratiques syriennes et elles sont inquiètes de se retrouver seules face au régime syrien.
Je vous prends un pari que dans quelques semaines, de toute façon, les Kurdes ont appris ce qui s'est passé à Afrin. C'est-à-dire à Afrin, ils sont fait massacrer par les Turcs.
Non, mais
les
Américains, vous soutenez qui?
Mais c'est aux Kurdes de faire leur choix, mais je vais vous dire quel choix ils vont faire. Je pense que les Kurdes vont
se rapprocher. Faut soutenir Bachar el-Assad ou est-ce qu'il faut soutenir les FDS et les empêcher de se faire massacrer par le régime syrien?
Les Kurdes vont se rapprocher du régime syrien, qui va leur garantir un certain nombre d'autonomie. Voilà. Et nous, la France, on doit essayer d'œuvrer pour la paix et pas d'encourager certains groupes terroristes. Moi, je fais une proposition concrète, par exemple. Ouais. Vous savez, quand je suis allé en Syrie les dernières fois, j'ai vu des étudiants, là, qui avaient les larmes aux yeux parce qu'on avait fermé leur lycée. Si on veut commencer à prendre des relations et ne pas flinguer complètement la francophonie dans ce pays,
normaliser totalement les relations.
Ne parlons pas des larmes qui ont coulé en Syrie pour le coup, Thierry
Mariani.
Ne parlons pas de ces larmes.
10 ans à Emmanuel Macron, simplement, déjà réouvrez les établissements scolaires français qui étaient avant, en Syrie.
L'émission se termine.
Et puis ce sera après une première étape pour les liens diplomatiques.
Merci Thierry Mariani d'avoir été l'invité de Questions Politiques ce dimanche. La campagne pour les européennes a commencé. Vous sentez qu'elle a commencé ou pas encore?
Pour nous, elle a commencé parce qu'on a un programme clair. On attend toujours que La République En Marche désigne qui se conduira sa liste.
Merci Thierry Mariani. Merci à toute l'équipe et à Alexandre Gilardi, à l'équipe technique de Questions Politiques. Rendez-vous la semaine prochaine.